de Yali.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre L'Amérique et vous, édition de ce vendredi 2 août 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. Et ce soir, nous parlons de jeunesse, de leadership et d'entrepreneuriat. Le prétexte étant, comme il est de coutume, en cette période de l'année, le rassemblement ici à Washington DC de nombreux jeunes Africains dans le cadre du YALI. L'initiative pour les jeunes leaders africains, plus connue sous l'acronyme YALI, a été lancée en 2010. Le programme Mandela Washington pour les jeunes leaders africains, lui, commence en 2014. Depuis cette date, pas moins de 5100 jeunes leaders de tous les pays d'Afrique subsaharienne ont participé à ce programme. Selon le département d'État américain, les boursiers âgés de 25 à 35 ans sont des leaders accomplis qui ont fait leur preuve en matière de promotion de l'innovation et d'impact positif dans leur communauté et leur pays. Chaque année, les boursiers participent à des instituts de leadership de 6 semaines, étudiant les affaires, l'engagement civique ou la gestion publique dans des collèges ou des universités américaines. Pendant leur séjour dans des campus, les boursiers nouent des liens avec les Américains et enrichissent les communautés locales des États-Unis tout en partageant les meilleures pratiques. Après les instituts, les boursiers se réunissent pour un sommet de plusieurs jours ici à Washington DC où ils nouent des liens entre eux et avec des dirigeants américains des secteurs privés, publics et à but non lucratif, préparant ainsi le terrain pour un engagement à long terme entre les États-Unis et l'Afrique. Cette réunion vient donc de s'achever ici même à Washington ce vendredi. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, qui mieux que ces jeunes qui représentent l'avenir de demain, aussi bien pour l'Afrique que pour les États-Unis, voire du monde. Nous avons donc comme invité ce soir, nous avons le docteur Kanté Moussa. Il est avec nous. Docteur Kanté Moussa, bonsoir.
Monsieur John, bonsoir.
Vous êtes malien, médecin au centre de santé de référence de Menaka, fondateur de l'initiative Kouri Nafa, Mandela Fellow en leadership en gestion publique à l'Université du Minnesota. Bienvenue dans cette émission.
Merci bien, merci, c'est un plaisir d'être avec vous.
Voilà. Anne-Julia Cupidon, vous venez de l'île Maurice, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir aux auditeurs de Voix de l'Amérique. Je suis Anne-Julia de l'île Maurice. Je représente Bridgewater State University.
Voilà, vous avez plus de 6 ans d'expérience dans les domaines de l'éducation, de la protection de l'enfance et de l'autonomisation des communautés. Actuellement, vous travaillez comme psychologue scolaire à la Commission pour l'éducation de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Anne-Julia, vous êtes aussi titulaire d'une licence en psychologie de l'Université de Pune en Inde. Vous aurez l'occasion de nous dire de quoi il s'agit. Alors, nous attendons certainement aussi dans cette émission le docteur Pauline Achancho, qui nous vient du Cameroun. Mais on va commencer avec ceux qui sont là. Docteur Kanté Moussa, quelle a été votre réaction quand l'ambassade des États-Unis au Mali vous a sélectionné pour faire partie du programme YALI de cette année?
Oh, merci bien pour cette question. Au fait, c'est un jour inoubliable. Je suis là à Gao. Le jour-là, j'étais venu à Gao. Ça, c'est aussi au Nord Mali. De passage, je vois une notification et c'est écrit congratulations. J'ai dit Dieu merci. C'était vraiment du waouh. Parce que vu le Mandela, le programme Mandela qui est connu partout dans le monde, plus précisément dans les pays africains, si être un fellow de Mandela, c'est une réalisation qui est vraiment immense. Donc, le jour où j'étais si vraiment sidéré, c'était explosif.
Voilà. Alors, et Anne-Julia et vous, alors, comment les choses se sont passées?
Alors, moi, j'étais au travail et j'ai reçu le mail. C'était un choc parce que je ne m'attendais pas. Parce que quand même, Mandela Washington Fellowship, c'est prestigieux et ils prennent vraiment des gens qui sortent de l'extraordinaire. Donc, moi, j'étais vraiment bouche bée. J'ai regardé ma collègue, elle m'a regardée. Je ne pense pas que ce jour-là, j'ai réalisé que je ferais partie de cette expérience. Mais c'était vraiment... Je retiens le choc comme émotion ce jour-là.
En tout cas, soyez les bienvenus donc à Washington. Docteur Kanté Moussa, en termes d'expérience et d'enseignement, qu'est-ce que vous avez appris et comment est-ce que cela va vous aider une fois de retour au Mali?
Alors, je peux dire que ce que nous avons appris ici, c'est surtout... moi, j'étais tout d'abord... sur les tracks de leadership en gestion publique. Donc, on sait que nous avons pris, c'est surtout comment gérer les services nationaux, et aussi comment gérer le personnel, parce que je suis dans un service de chef de département au centre de santé où je travaille. Donc, je crois, une fois au retour au Mali, je peux facilement appliquer, et quand même en tant que leader de service, essayer de connecter les gens et faire avancer voilà, le service sur la bonne direction.
Alors, Anne-Julia, je sais que vous êtes dans le domaine de la... psychologie. Vous avez l'intention, après cette formation ici aux États-Unis, de poursuivre dans le domaine de l'éducation et de l'autonomisation des communautés. Comment sont gérées les questions de psychologie dans votre pays et même en Afrique de manière générale? On a souvent l'impression que quand on dit, par exemple, de consulter un psychologue, que ce sont des affaires de fous ou des choses qui ne se passent que dans les pays occidentaux. Qu'est-ce que vous répondez à ces préoccupations-là?
Alors, je ne peux pas parler pour l'entièreté du continent africain, mais je peux parler dans le contexte mauricien. Et chez nous, quand on parle de psychologie, pareil, il y a un gros tabou dessus. Et il y a des gens qui pensent que quand on va voir un psychologue, c'est automatiquement parce qu'on a des problèmes mentaux ou qu'on est fou. Et donc, moi, mon travail consiste à vraiment d'essayer de terminer ces tabous, d'apporter l'éducation et de faire comprendre aux gens que la psychologie, c'est vaste, mais en se focalisant sur la santé mentale. Donc, je fais aussi advocate for mental health. Et mon travail, c'est centré sur les jeunes, les faire comprendre que la base... de la vie, c'est d'avoir une bonne santé mentale comme une bonne santé physique. Et je pense qu'au niveau de l'Afrique, on a des gros efforts à faire au niveau de tout ce qui est de promouvoir la santé mentale et de faire comprendre aux gens que c'est pas un tabou et que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Mais l'essentiel, c'est de vraiment, quand on en a besoin, d'aller voir des professionnels dans le domaine et d'en parler.
On a la chance d'avoir le docteur Kanté Moussa avec nous. Docteur Kanté, quelle est la différence qu'on peut faire justement entre un malade mental, entre guillemets, et moi qui viens à l'hôpital avec mon paludisme ou ma fièvre typhoïde, que Dieu m'en épargne?
S'il vous plaît, si vous pouvez répéter la question.
Quelle est la différence qu'on peut faire? Quelle est la différence qu'on peut faire entre un malade mental qui a des problèmes d'ordre psychologique et quelqu'un qui vient à l'hôpital avec un paludisme, par exemple?
Bon, ça, quand même, on peut voir plusieurs différences parce que la première chose, c'est le comportement déjà. Le malade mental, lui, il vient avec un comportement qui n'est pas, qui n'est pas commun. Déjà, on peut voir la méfiance même de la famille, des parents, de l'entourage, même les agents de santé. Mais quelqu'un qui vient avec le paludisme, nous comprenons tous la maladie. Les gens ne vont pas se méfier. Donc, ça, c'est une grande différence. Le comportement, et plus encore la compréhension du monde autour. Donc, c'est que je peux dire.
Alors, on a été rejoint, comme annoncé par le docteur Pauline Achancheau. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir. Vous êtes juriste, praticienne des salles d'audience au tribunal de grande instance de FACO à Boya, sous l'égide donc du ministère de la Justice au Cameroun. Vous êtes également professeur de droit à l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous pilotez une initiative connue sous le nom de Getaway Corruption Initiative qui vise à lutter contre la corruption, les pratiques illégales et à promouvoir la bonne gouvernance, une carte de visite bien chargée. Alors, la question qu'on posait à nos autres invités, le docteur Kanté Moussa et Angelia Cupidon, c'est comment vous avez accueilli la nouvelle selon laquelle vous êtes retenu pour le programme Yali de cette année?
Merci déjà pour la question. J'ai accueilli la nouvelle très bien par un email de l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui me disait félicitations pour avoir été retenu pour ce programme et puis le travail a commencé.
Et depuis que vous êtes donc aux États-Unis, comment les choses se sont passées?
Je dirais les choses se sont passées déjà très bien. Parce que depuis le départ du Cameroun par Paris et à Boston, où j'ai fait mon leadership course en public management track, on a reçu beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses pratiques où on a vécu, on a vu, on a fait les pratiques et les sessions académiques.
Alors, docteur Kanté Moussa, je ne sais pas si c'était aussi le cas au Mali, mais dans les années 90, on a beaucoup entendu parler du slogan « Santé pour tous » en l'an 2000. Presque un demi-siècle plus tard, il n'y a pas de santé pour tous en Afrique. Les choses s'empirent même, puisque vous êtes dans le domaine. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à votre avis, pour améliorer au maximum la santé des Africains? Et qu'est-ce que vous... votre expérience va vous permettre de faire pour votre pays, par exemple?
Merci beaucoup pour cette question. Alors, la santé, comme vous le savez bien, c'est lié à beaucoup de choses. C'est surtout lié à l'économie, c'est lié à la sécurité, c'est lié à l'éducation, et puis c'est lié à d'autres choses. D'autres facteurs qui sont aussi déterminants. Donc, si il faut améliorer la santé des Africains, moi je crois qu'on ne peut pas améliorer la santé sans aussi améliorer ces autres facteurs. Par exemple, moi je vis à Ménakassa, au nord du Mali. Nous savons que cette région, nous vivons une crise depuis 2012. Pratiquement tous les médecins, les agents de santé, les services sont fermés, les médecins sont partis. C'est pas facile même de faire prendre un médicament de Bamako pour amener à Ménaka, c'est tout un problème. Donc il faut améliorer sur ce facteur d'abord, sécuritaire. Ça sera un élément clé pour l'amélioration de la santé des Africains. Donc, En résumé, je peux dire on doit améliorer la, l'économie, on doit améliorer la sécurité et puis même l'éducation.
Et donc, qu'est-ce que votre expérience ici aux États-Unis à quoi va servir cette expérience? Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous rentrez?
Une fois que je rentre, c'est une formation de 6 semaines, donc ce que je peux faire, c'est surtout, je vais me baser surtout sur la communication. Parce que, comme ce que je vous ai dit, c'est vrai, vous venez aux États-Unis, vous apprenez, c'est des théories, mais pratiquer, c'est une autre réalité, surtout si tu vis dans certaines zones. Donc, il faut être stratégique pour arriver à ces objectifs. Donc, la stratégie que j'ai développée ici, au cours de mon focus project, parce que le Mandela aussi, si tu viens, on va te donner un coach. Moi, mon coach, elle était vraiment expérimentée en termes de campagne sanitaire. Donc,
tout à fait.
Voilà, je crois, ce que je veux faire, c'est surtout me baser sur la prévention que le traitement.
Voilà, donc et peut-être aussi partager votre expérience. On va continuer cette émission dans un instant, juste le temps d'une pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous, et nous parlons ce soir de leadership, de jeunesse. Anne-Julia, vous êtes, on l'a dit, psychologue, vous travaillez donc aussi beaucoup avec les enfants dans le domaine éducatif. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, personne n'y échappe. Est-ce que ces réseaux sociaux influencent le comportement des jeunes aujourd'hui du point de vue psychologique?
Alors oui, les réseaux sociaux influencent les jeunes de manière positive comme de manière négative. Donc moi, au courant de mon travail, je constate au niveau positif. D'abord, ça aide au niveau du langage, si les parents savent bien l'utiliser. Par exemple, avant, quand il y avait un enfant qui venait à l'école, c'était quand ils entraient à l'école qu'ils apprenaient les langues comme le français ou l'anglais. Mais maintenant, avec YouTube et avec la technologie, il y en a qui apprennent les nouvelles langues bien plus tôt. Mais bien sûr, quand c'est surveillé et monitored par les parents. Mais aussi, au contraste de ça, on voit que la technologie impacte le langage aussi négativement quand c'est pas surveillé et quand il y a un laisser-aller. Moi, dans mon travail, on constate une montée énorme des jeunes enfants âgés de 4 ans à 5 ans qui viennent avec des problèmes de langage, donc qui ont des difficultés à parler tôt, parce que justement, il y a un mixte de langage et les parents ne passent pas assez de temps avec les enfants pour les apprendre le langage local et aussi l'anglais et le français. Donc, on voit qu'il y a cette distanciation aussi des parents et des enfants, parce que maintenant, dès que l'enfant devient persistant sur quelque chose, les parents, pour avoir un peu de paix, leur donnent un smartphone ou les mettent devant la télévision. Donc, il y a cette déconnexion des relations entre parents et enfants qui devient de plus en plus conséquent dans notre société.
D'accord. Alors, docteur Pauline Achancho, on l'a dit en vous présentant, que vous pilotez une initiative connue sous le nom de Getaway Corruption Initiative qui vise à lutter contre la corruption, les pratiques illégales et à promouvoir la bonne gouvernance. Est-ce que votre expérience ici aux États-Unis va vous permettre de mieux peaufiner cette initiative? Et concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites quand on sait que le Cameroun, votre pays, a été, autant le dire, 2 fois champion du monde de la corruption selon le classement de Transparency International?
Et bien sûr, ça, c'est même la raison pour laquelle cette initiative a pris vol parce que on s'en rend compte que on a besoin d'une initiative fraîche et pour rééduquer les jeunes. Oui, je dirais que mon expérience aux États-Unis m'a permis ou me permet toujours d'avancer ce projet parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses sur les services de communauté, qui est quelque chose que je pense que je suis en train de rentrer avec au Cameroun pour initier les jeunes, pour s'engager dans les services de communauté, pour ce qui est qui a une grande place dans la bonne gouvernance.
En tout cas, on vous souhaite tout le bien qu'on vous souhaite. On tire à la fin de ce programme, on va faire un tour de table. Quel est le conseil que chacun dans son domaine vous pouvez donner aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient bien participer à ce programme? Quels sont les tips, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? D'abord, Anne-Julia Cupidon.
Les jeunes, c'est de foncer et de ne pas avoir peur. Et justement, de prendre davantage des initiatives comme Yali. Il y a les centres régionaux comme il y a le Mandela Washington Fellowship. Donc, et de comprendre que on n'est jamais seul dans notre quête d'améliorer notre société ou dans notre lutte pour l'égalité, l'inclusion et l'équité. Et que si vous regardez autour de vous, il y a toujours des gens qui sont en train de travailler dans le même domaine et de s'unir à ces gens. Parce que si je retiens une chose d'ici, c'est qu'il y a un pouvoir dans la collectivité. Donc moi, j'inviterai les jeunes de foncer et de se retrouver, de se réunir pour justement créer cette Afrique dont nous rêvons et dont on a besoin.
Docteur Kanté Moussa, vous, quel est le conseil que vous prodiguez aux jeunes maliens surtout, quand on sait que le pays traverse une situation quand même assez compliquée ces derniers temps?
Mon premier conseil à mes frères maliens, c'est que nous sommes un pays francophone, c'est vraiment d'apprendre l'anglais, parce que c'est vrai, tu peux être jeune, engagé, tout, mais si tu ne parles pas l'anglais, le programme Washington Fellowship n'est pas fait pour toi, parce que c'est sur la base de ton leadership et puis de ton anglais, et si tout se passe en anglais. Donc la première des choses, c'est vraiment de fournir un peu d'effort pour apprendre l'anglais. La deuxième, ça sera aussi de s'engager. Être engagé dans la société, être dans les programmes de volontariat, donner quelque chose à sa communauté. Voilà, surtout, je vais donner un dernier conseil aux agents de santé du Mali. Très généralement, nous ne sommes pas vraiment représentés en tout ce qui concerne ces grandes opportunités. Je veux leur dire de saisir ces opportunités, que ce soit médecin, infirmier, sage-femme. Vous avez votre place, vous pouvez le faire. Croyez en vous. Merci.
Docteur Pauline Achancho, le docteur Kanté Moussa parlait de l'anglais. Vous venez donc d'un pays qui est bilingue, le Cameroun. D'ailleurs, vous parlez parfaitement anglais et français, sauf que c'est pas toujours le cas chez la plupart des Camerounais.
Si la plupart des Camerounais, surtout ceux qui viennent de la région anglophone, la grande partie qui est faite de régions francophones au Cameroun. Mm-hmm. Oui, mais je sais que étant au Cameroun, on a souvent la possibilité d'être affronter ou bien on touche aussi souvent le côté anglophone parce que c'est partagé, les anglophones vivent aussi dans les régions francophones et ainsi de suite.
Et donc le conseil que vous donnerez en quelques mots à ces jeunes Camerounais là qui souhaitent participer à ce programme?
Ok, moi je dirais que premièrement, la jeunesse fait la force déjà de notre pays et de l'Afrique entière parce que la jeunesse, c'est la force et on peut compter sur la jeunesse.
Voilà.
Donc déjà, je dirais que étant la force du pays et du continent,
merci.
On doit commencer, nous les jeunes, on doit commencer à penser intérêt public et non intérêt privé.
Merci. Et c'est par ces propos, pardonnez-moi, qu'on va mettre un terme à cette émission L'Amérique et vous, que vous pourrez réécouter sur notre site internet voafrique.com. Présentation John Lyndon, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités. Rentrez bien chez vous et devenez les leaders dont l'Afrique a besoin demain. Bonsoir.